En première ligne face à la Covid-19, les services de réanimation sont sur le qui-vive. Ils sont devenus le baromètre de l'évolution de l'épidémie. Et les chiffres virent au rouge, notamment en région parisienne.
La pression est forte et nous savons ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. Nous savons que nous arriverons autour de 50% de lits de réanimation occupés par des patients Covid.
La perspective d'une deuxième vague inquiète les personnels de santé, car l'hôpital manque de bras.
Les lits, les infrastructures, ça je crois que à peu de choses près on y est. Par contre, du point de vue des ressources humaines, on est très loin du compte.
Les soignants sont aujourd'hui en sous-effectif et ceux qui sont sur le pont sont épuisés, éprouvés moralement et physiquement par la crise sanitaire.
Le personnel a beaucoup donné, est fatigué. Il a repris une activité très dense parce qu'il a fallu rattraper le retard avec les patients qui sont revenus. Et aujourd'hui, il fonctionne à flux tendu.
En déplacement à l'hôpital Rothschild à Paris, Emmanuel Macron a été interpellé aujourd'hui par des soignants dépités.
Moi, c'est moi qui vous remercie.
Ça fait 40 ans que je suis à Rothschild et j'ai jamais vu les augmentations arriver.
Dans ces cas-là, ça fait 30 milliards
d'euros. Les jeunes, j'essaye de les motiver pour qu'ils restent avec nous, mais j'ai plus d'arguments.
Deux mois après le Ségur de la santé et les promesses d'augmentation de salaire et de moyens, le chef de l'État a appelé à être patient et confiant.
Je suis un fils d'hospitalier, j'ai pas envie de laisser tomber l'hôpital. Et si je me suis engagé à faire le Ségur quand j'étais à Mulhouse et que derrière on l'a fait et qu'on met les moyens, c'est parce que j'y crois.
Alors comment expliquer que l'hôpital apparaisse aussi fragile face à la deuxième vague de Covid-19? Pourquoi n'a-t-on pas réussi à doubler le nombre de lits en réanimation? L'épidémie met-elle en lumière les faiblesses de notre système de santé?
Les 10 000 lits de réanimation promis au mois d'avril par le gouvernement, professeur Guédé, c'est même le chiffre de 12 000 lits qui avait été avancé. D'après le ministère de la Santé, au mois de septembre, on disposait de 6 000 lits disponibles en France. Est-ce qu'on aurait pu profiter de l'été pour augmenter le nombre de lits ou est-ce que c'est évidemment plus compliqué que ça?
Alors c'est plus compliqué, vous savez, un service de réanimation, c'est bien sûr, c'est des lits, c'est du matériel, mais c'est surtout du personnel. Et donc la grande difficulté que l'on va avoir là au printemps et surtout à l'automne
oui.
et à l'hiver prochain, c'est notre capacité à augmenter le nombre de lits et le facteur limitant ce sera le personnel. Il faut du personnel qualifié, il faut du personnel mobilisable. Alors on essaie de répertorier les personnels, mais il n'y en a pas assez.
Pour rester simplement sur le nombre de lits à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, de combien de lits disposez-vous et combien?
Alors pour l'instant, on a le capacitaire habituel.
Ouais.
On a un plan de montée en charge pour augmenter le nombre de lits, parallèlement à la déprogrammation d'activités chirurgicales pour permettre à du personnel d'être mobilisé vers ces secteurs.
D'accord.
Moi, j'ai une grande inquiétude parce que par rapport au printemps dernier, le personnel est fatigué. On n'aura pas d'aide d'autres régions parce que d'autres régions sont touchées.
Elles-mêmes sous tension. Ouais.
Un certain nombre de personnes sont effectivement déçues des conclusions du Ségur de la santé. Et donc, je pense que ce sera le facteur limitant pour augmenter les capacités. Donc, 10 000 lits ou 15 000 lits de réanimation, je pense qu'il faut oublier.
Oui.
Mais la question est intéressante parce que on peut pas dire que l'État n'a pas été réactif par rapport à l'hôpital. Encore une fois, si on regarde les moyens qui sont alloués, pas simplement avec le Ségur, hein, le budget de l'hôpital public, c'est 77 milliards d'euros. 62% sont dédiés aux rémunérations, soit à peu près 47 milliards. Bon, c'est quand on compare par rapport aux autres pays, on peut pas dire que l'État français sous-investit dans l'hôpital public. Donc le problème, il est ailleurs. Par rapport au Ségur, je pense qu'il y a eu un problème d'approche politique. C'est-à-dire que vous avez deux horizons, le court terme et le long terme. Cette crise, elle est là pour durer. Or, l'hôpital est un maillon essentiel, si je partage que l'hôpital public doit se réformer, qu'on peut plus avoir un problème centré. Mais il faut, l'hôpital est un maillon essentiel qui n'était pas préparé à cette crise-là. Donc je pense que l'urgence, plutôt que d'essayer de s'occuper du long terme avec remettre les rémunérations sur plusieurs années à flot, il fallait impérativement essayer de régler et de tout miser sur le court terme pour que l'hôpital puisse réagir. Alors oui, il faut
s'intéresser uniquement à la crise du Covid.
Principalement,
ouvrir des lits et embaucher.
Parce que on a vu que le confinement, c'est un drame économique et social.
Et moral.
Dans lequel l'hôpital est un élément absolument clé. Si on doit se reconfiner, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place en réanimation à l'hôpital, principalement.
C'est la seule raison, semble-t-il. Le chiffre du jour?
On parlait des rémunérations. Le chiffre du jour est impressionnant. 8,2 milliards d'euros, c'est la somme que le gouvernement a mis sur la table dans ce fameux Ségur pour revaloriser les rémunérations du personnel médical. Pour autant, l'hôpital ne va pas mieux. Question pour vous, Gaël Faitour, qu'est-ce que cet hôpital public en France que 8,2 milliards d'euros ne suffisent pas à guérir?
Après, c'est comme vous le disiez, effectivement, c'est un problème qui est quand même qui date de 20 ans. Donc on ne peut pas tout régler avec 8,2 milliards d'euros. D'une part, parce que cet argent va être distribué en partie avec les revalorisations de salaires qui ont été effectuées là au 1er septembre. L'autre partie des revalorisations de salaires viendra au 1er janvier.
C'est-à-dire que c'est en deux temps, on n'a pas tout versé.
Non, voilà, on la reverse en deux temps, en fait.
En mars, la deuxième tranche est mars.
En mars, d'accord. Donc voilà, c'était en deux temps. Et puis, il y a aussi d'autres investissements dans ces 8 milliards qui vont être mis pour que les hôpitaux s'adaptent, s'équipent, un peu plus en information de santé, enfin tout ce qui est en numérique, etc. Pour que les hôpitaux aussi interagissent beaucoup mieux avec la médecine de ville. Donc en fait, c'est 8 milliards, mais qui ne sont pas investis d'un coup. Et donc là, maintenant, il y a encore plusieurs mois. Fallait aussi que le budget de la Sécurité sociale soit voté aussi pour pouvoir mettre en œuvre certaines de ces mesures.
Or, ça a mis du temps, ça va arriver.
Ça, voilà, on vient tout juste de le présenter, c'était fin septembre. Donc il va falloir encore que ça passe devant les députés, etc. Donc en fait, il y a quand même un horizon de temps où il faut aussi se donner un petit peu de temps pour tout mettre en œuvre, en fait.
Bertrand Guidet, est-ce que les 8 milliards dont on parle, consacrés principalement à l'augmentation des rémunérations, étaient bien utilisés? Est-ce que l'idée de tout réparer à la fois était une erreur, ou est-ce qu'il aurait fallu se concentrer?
Il y avait un rattrapage, c'est-à-dire que le point d'indice n'avait pas bougé depuis 10 ans.
Le point d'indice des salaires.
Des salaires. Et les infirmières françaises, comparativement aux autres infirmières de l'OCDE, sont plus parmi les plus mal payées. Donc il y avait un rattrapage qui était nécessaire.
Il a été fait? Il est
partiellement
suffisant?
Non. Alors, je pense qu'en termes de communication, le faire en deux tranches, c'est pas bien. Il aurait fallu...
D'un coup.
Vous faites 80 euros plus 80 euros. Non, il fallait faire 160 euros d'un coup.
Pardon, on dit 8 milliards, dans la poche de l'infirmière, c'est 160 euros.
Non, c'est... oui, absolument. C'est
160, ça semble peu.
Voilà. Oui, c'est ça. Deuxième élément, je regrette un tout petit peu qu'on n'ait pas considéré la pénibilité de certains postes. Pratiquement rien n'a été fait sur la garde. C'est quand même pas la même chose de travailler la nuit et de travailler le jour. C'est pas la même chose de travailler en réanimation avec la présence à l'hôpital un week-end sur deux. Vous travaillez en 12 heures, vous arrivez à 7 heures du matin, vous repartez à 19 heures, vous gérez des familles dans l'angoisse,
le stress, la pression,
etc. Et donc moi, j'aurais été quand même assez favorable à des augmentations différenciées selon le rôle dans la chaîne de soins.
Mais non, ce qui est quand même très surprenant, c'est qu'il y a un diagnostic qui est assez partagé sur pourquoi est-ce qu'il y a un déficit d'attractivité aussi important à l'hôpital public. Il y a plusieurs choses.
Et pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas y faire
travailler? Non, mais pourquoi c'est que les gens ne veulent plus y travailler? Mais y compris, vous avez 30% de taux de vacances chez les praticiens hospitaliers. L'hôpital public, en particulier la PHP, c'était le Graal. Quand vous étiez praticien hospitalier, vous rêviez d'être chef de service, de travailler dans les services et tout. On ne trouve plus assez de candidats pour remplacer ceux qui partent. Pourquoi? Quand vous interrogez les jeunes, ce qui est quand même assez intéressant, la jeune génération, vous vous rendez compte du gouffre entre leurs attentes, leur vision de leur carrière professionnelle et les carrières professionnelles qui sont proposées, qui sont à peu près les mêmes qu'il y a, ça a été fait en 1958 principalement, ça n'a quasiment pas bougé. Bon, donc ces carrières professionnelles gérées n'attirent plus, c'est pas ce que veulent les jeunes. Ensuite, il y a un vrai problème de management, on sait qu'il y a une suradministration de l'hôpital, et puis il y a une centralisation des décisions. Elle est soit à la PHP, soit à ce qu'on appelle à la Direction Générale de l'Offre de Santé, mais déjà le directeur est quasiment dénué de tout réel pouvoir. Je vous dis pas le chef de service, le chef de pôle ou le simple praticien hospitalier. Il se sent totalement comme un pion dans un système après avoir fait une dizaine d'études. Bon, donc c'est ça le nerf de la guerre. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur...
Il aurait mieux... je vous interromps une seconde.
Vas-y.
Ces gens si mal organisés, tellement démotivés, sont quand même ceux qui nous ont sauvés collectivement pendant la grande crise du printemps.
Parce qu'on avait oublié tout ce qui a été fait en termes d'administration, d'autorisation, dès que quelqu'un veut faire quelque chose. Tout ça a été oublié.
Le fonctionnement de l'hôpital a été assez remarquable, effectivement, au printemps. Avec les murs, les complications réglementaires qui sont en partie tombées, avec beaucoup de réactivité. Et je pense qu'il faut arriver à capitaliser sur ce que l'on a été capable de faire
pour empêcher que ça se resclérose.
Absolument.
Gaël Faitour, il y a un discours clivé sur l'hôpital français. Tantôt on considère que c'est un endroit d'excellence, notamment d'excellence médicale. Tantôt on vient d'entendre que c'est un endroit, un lieu de la République totalement défaillant. La journaliste que vous êtes, comment présenter au public l'état, réelle de notre hôpital. Dois-je en être fier ou dois-je en inquiéter, voire m'en paniquer?
Moi, je pense que ça doit quand même être un vrai sujet déjà de fierté quand même, parce que quand on le voit à l'étranger, enfin, l'hôpital public français a déjà mis au point beaucoup, beaucoup d'innovations. On a aussi quand même un système qui est quand même très sécurisant et qui permet de traiter le mieux possible les Français. Donc, c'est quand même une source de fierté. Après, justement, en fait, même votre question, elle l'exprime, c'est qu'en gros, peut-être qu'on mise trop sur l'hôpital public français, en fait.
On repose dire dans l'architecture globale
exactement, du système, réseau du système de santé, du réseau de soins. Parce que c'est vrai que bah, on a aussi quand même de la médecine de ville, on a des cliniques privées et on l'a justement vu bah, au début de la crise du Covid, quand effectivement, les cliniques essayaient de s'organiser pour faire de la place, pour mettre des lits de réa.
Et puis, ça a marché, ça, justement, cette collaboration publique-privée?
Bah, en fait, l'État leur a demandé d'annuler toutes les opérations qui étaient prévues pour se rendre dispo. Et finalement, le SAMU n'a pas forcément beaucoup adressé, en tout cas au début, les bons patients. Donc, en fait, on était prêts, mais on ne se connaissait pas assez pour bien communiquer, en fait.
Professeur Guidet, on demande trop à l'hôpital public?
D'une certaine façon, oui, mais ça dépend de quel hôpital public on parle. Est-ce qu'on parle d'hôpital universitaire, qui est vraiment un hôpital de recours, ou là, je pense qu'il faut essayer de voir comment on pourrait
aller
les CHU. Comment est-ce que l'on peut alléger les CHU d'une certaine charge qui pourrait être prise dans d'autres établissements, pour pouvoir garder l'expertise et le rôle de recours hein, des hôpitaux universitaires. Après, il y a effectivement les gros centres hospitaliers non universitaires, mais qui contribuent vraiment à l'offre de soins. Il y a les établissements privés participant au service public hospitalier qui ont un statut assez intéressant, qui peut-être il faudrait travailler. Puis il y a les cliniques privées. Donc c'est l'ensemble du tissu hospitalier qu'il faut considérer et regarder comment ça peut collaborer. C'est essayer d'être fait un tout petit peu avec les groupes hospitaliers, le groupement hospitalier de territoire, qui, à mon avis, fonctionne pas très très bien, dont les cliniques sont en grande partie exclues. Ça repose le problème du rôle des régulateurs des agences régionales de santé, qui ont travaillé plus ou moins bien selon les régions. Voilà.
Frédéric Bizard, on parle de médecine et on parle d'administration. Ouais. J'entends de la suradministration dans tout ce qu'on évoque.
Oui, parce qu'en fait, ça a été un moyen. L'État a pensé, ça c'était les ordonnances Juppé il y a 25 ans, que puisqu'on avait des dépenses de santé qui augmentaient de façon trop importante, 2 à 3 fois la hausse du PIB à ce moment-là, on s'est dit, c'est qu'il faut reprendre le contrôle sur l'activité des soignants et sur les patients. Donc il faut sortir de ce système qui est trop libre dans lequel. Et donc on a créé d'abord des agences régionales d'hospitalisation, puis des agences régionales de santé, puis des groupements hospitaliers de territoire, et puis maintenant des communautés professionnelles. Donc on a tout un tas de, excusez-moi l'expression, mais de zinzins administratifs, où on se dit plus on va les contrôler, plus ça va être... Mais c'est tout à fait l'effet inverse qui se passe, c'est que vous augmentez les coûts d'administration et vous baissez la productivité des acteurs, parce que vous les déresponsabilisez. Donc on arrive au bout de cette logique-là, parce que cette crise à l'hôpital, vous l'avez en ville, vous l'avez dans les EHPAD, il n'y a pas que à l'hôpital. Juste sur votre question, parce que c'est assez désespérant l'état du système français par rapport à la richesse de ses actifs. Ce qui est plein d'espoir, c'est que vaut notre hôpital public aujourd'hui? Ben, si on le regarde par ses murs, par l'état de son organisation, on est un petit peu désespéré. Si vous regardez à la qualité de ce qui fait un hôpital public, c'est-à-dire les ressources humaines, c'est-à-dire les nouvelles technologies, là vous êtes plein d'espoir. Parce que si vous remettez un petit peu d'aplomb son organisation, on a parmi les meilleures ressources humaines au monde. On n'a pas. Si vous avez une opération importante à avoir, vaut mieux l'avoir en France que dans beaucoup d'autres pays. Seulement l'hôpital dans le système de santé qui doit être dans le territoire, on n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais ce qui change, c'est que c'est plus un hôpital bunker, c'est un hôpital qui se fond dans le territoire. Donc, groupement hospitalier de territoire, APHP, tout ça, à quoi ça sert aujourd'hui?
Alors,
c'est une remise en cause très importante par rapport à l'organisation précédente.
Frédéric Bizard, on va évoquer avec Nadia une solution qui a été apportée il n'y a pas longtemps pour désengorger, on revient aux urgences, désengorger les urgences, c'est faire payer un forfait.